Bon, je crois qu'on va peut-être démarrer. Je ne sais pas si on attend encore quelques personnes, mais en tout cas, merci d'être venu pour ceux qui sont là ce soir, dans cette très jolie salle qu'ils nous ont prêtée ce soir, Pierre Denois. Apparemment, l'autre salle était prise justement suite à ce petit changement de date. Donc, merci d'être venu pour cette nouvelle date, et je m'excuse auprès de ceux qui écoutent l'enregistrement, qui n'ont pas pu venir ce soir, Isabelle, Sandrine et d'autres, voilà, vous êtes ici avec nous tout de même, on pense à vous. Donc, ce soir, continuité de l'ensemble de notre voyage, de notre histoire. Je vais essayer de vous emmener un petit peu plus loin sur ce voyage, petit pas par petit pas vers le ciel, vers ce foyer qui nous attend chaleureusement, vers notre vrai foyer que tout le monde soupçonne, tout le monde sait au fond de lui que ça existe quelque part. Il y a un endroit qui s'appelle notre chez-nous, notre foyer, le ciel. Chacun a une façon peut-être de le symboliser pour lui, de le réfléchir, de l'incarner ou de le ressentir pour lui-même. Mais c'est juste des fois un petit soupçon d'idée qu'ici, ce n'est pas notre vrai chez-nous, mais qu'il y a un autre endroit aussi vague, aussi abstrait que ça peut sembler. Il y a un autre endroit qui doit être notre vrai chez nous. Ce que vous voyez ici est effectivement le travail que nous avons fait jusqu'à les 4 dernières séances, qui regroupe l'ensemble des idées sur des affiches que nous mettons au fur et à mesure sur le mur. Comme ça, nous pouvons tous suivre un petit peu ce qui s'est passé. Et aussi pour ceux qui sont en train d'écouter, vous pouvez vous référer au schéma qui est inclus sur le fichier, sur le site. Et donc, vous allez avoir une représentation exacte du travail que nous avons fait. Ça a l'air peut-être un petit peu compliqué comme ça, pour ceux qui n'ont pas vu, mais en fin de compte, ça coule et ça s'explique assez facilement, ce que nous allons faire très rapidement tout à l'heure. Mais tout d'abord, je voulais juste dire un petit mot sur le sujet de ce soir, parce que nous allons parler des relations. Et les relations tiennent une place particulièrement importante dans la philosophie du cours. C'est par les relations que nous voyons le problème, entre guillemets, c'est par les relations que nous appliquons la solution. Les relations sont très importantes, et à partir du chapitre à peu près 14-15, le texte ne parle à peu près que de ça pendant quelques bons chapitres. Et pourquoi les relations ont une place si importante? En fait, ça revient justement à notre problématique du départ. C'est que si on a une relation, on a forcément une idée d'un moi et d'un autre, ou plutôt d'un sujet et d'un objet. On a une idée de deux choses qui se rencontrent dans l'espace. Dans la totalité de l'unité d'où nous venons, on n'a pas besoin de relations parce que nous sommes tous fondus dans un ensemble où nous faisons qu'un. Mais dès l'instant où nous avons décidé de nous séparer de cette totalité et nous définir en tant que quelque chose de séparé, en tant qu'un Bernard, un Cédric, un Muriel, une Sandrine et 6 milliards d'autres petites âmes incarnées sur cette planète, nous nous sommes mis en relation avec d'autres âmes, avec d'autres gens, d'autres ce que nous appelons aspects de la filialité. Aspect, la filialité étant l'ensemble de l'extension que nous sommes, qui ont décidé d'avoir cette expérience de séparation, qui n'est pas forcément toujours la plus joyeuse. Et c'est ce qui m'amène à dire que les relations dans ce monde, nous pouvons penser, nous pouvons croire qu'il y a un millier de différentes sortes de relations. Et nous allons voir tout à l'heure, nous allons essayer de représenter sur le paperboard différents genres de relations que nous avons vécues, que nous vivons tous les jours dans nos vies. Et c'est à travers toutes ces différentes relations, effectivement, ce qui devient notre laboratoire pour comprendre exactement ce qui se passe, cette pensée de séparation, comment ça s'est fragmenté dans toutes ces différentes formes de relations que nous vivons aujourd'hui. Mais en réalité, malgré les milliers et des milliers de différentes formes de relations, j'ai eu une genre de relation avec, ma femme, une autre avec mes enfants, une autre avec mon chien, une autre avec mes amis, une autre avec mes collègues, ce n'est pas le même genre de relation. Au fond, le cours nous aide à comprendre que oui, toutes les relations sont pareilles. Ce qui est un énorme avantage de ce système. Parce que nous n'avons pas besoin d'apprendre sur toutes les nuances des différentes relations. Ce que nous essayons de voir, c'est justement la parfaite similitude entre les relations. Et nous arrivons à faire ce travail quand nous découvrons de plus en plus la façon que l'esprit séparé utilise les relations. C'est le but de la relation et de chaque relation qui nous concerne. Ce n'est pas la forme de la relation qui nous concerne, ce que nous appelons dans nos cours le contenu, le fond de la relation qui nous concerne, et pas la forme. Donc, cet énorme avantage se traduit en une solution. Des milliers de différentes formes d'un problème et une solution à toutes ces différentes problèmes, formes de problèmes. Parce que nous allons voir qu'en fait, ce qui semble être beaucoup différentes formes d'un challenge ou d'une relation très nuancée, on commence à voir une certaine transparence, on commence à voir une vraie similitude, un vrai fond entre cette relation-là et d'autres relations que nous pensons ne pas être liées du tout. La promesse du cours, c'est que si nous faisons ce travail de prendre du recul, de voir les similitudes entre toutes ces relations, toutes ces personnes dans ces relations, au fur et à mesure, ça va nous révéler autre chose. Ça va nous révéler l'unité qui est derrière les apparences de fragmentation, l'unité qui est derrière l'apparence de toutes ces différentes relations séparées. Ça va nous présenter à nos yeux ce que dans le cours ils appellent la vision du Christ. Le Christ étant cet magnifique esprit qui est derrière l'ensemble de l'humanité, derrière l'ensemble de l'existence ici. Le Christ, c'est simplement l'extension du principe créateur, le principe de la perfection, de l'amour céleste. Chacun encore a ses propres mots pour représenter, exprimer le plus haut, le plus divin, le plus céleste. Pour démarrer ce soir et le sujet des relations, je voulais vous raconter une petite blague que j'ai reçue sur Internet. Vous l'avez peut-être pas vue parce que c'était en anglais, sauf si ça a été traduit. Donc, ça va nous aider à comprendre comment nous démarrons pas forcément sur les bonnes bases dans une relation quelconque, qui ne donne pas forcément des bonnes conclusions. Et toute la soirée, nous allons parler justement de ce thème-là, comment nous pouvons être erronés dans nos perceptions d'une relation. C'est ce que nous voudrions savoir. Espérons de trouver l'erreur derrière nos perceptions, parce que si nous avions tort, on pourrait trouver une vraie solution de justesse. Donc, cette petite blague concerne deux personnes, un homme et une femme, qui rentrent d'une soirée ciné, dîner et compagnie. Et donc, dans la voiture, il y a un moment de silence. Ils sont dans ce moment de silence, et cette femme, elle commence à cogiter. Et elle se dit, tiens, on est allé au ciné, je me souviens, c'était la soirée, la dernière fois qu'on est allé voir un film un peu pareil, c'était il y a 9 mois, c'est la première fois que nous sortions ensemble. Ah, je me souviens maintenant. Et donc, elle s'est dit, mais neuf mois que nous sommes déjà ensemble, je me demande ce qu'il en pense. Parce que ça fait longtemps quand même, la dernière fois, j'étais en relation, c'était pas du tout aussi long. Et l'autre fois, n'en parlant pas, c'était beaucoup trop long. Et puis, elle commence à se faire, à réfléchir à tout ça. Et puis, soudain, elle dit à son copain, pour savoir ce qu'il en pense un peu, bah, tiens, tu sais, ça fait déjà 9 mois que nous sommes sortis ensemble. Et puis, lui, il dit, ah, tiens. Et c'est tout. Il continue à conduire, en silence. Elle est un peu... Elle ne sait pas quoi penser. Elle commence à réfléchir, à cogiter un petit peu. Elle dit, oh, il ne veut pas en parler. Et je ne sais pas, ça doit le gêner. Il doit avoir un petit truc. Et puis, un petit peu plus loin, il dit, peut-être ça lui semble un peu long, 9 mois déjà. Peut-être il s'ennuie. Est-ce que ça s'est bien passé ce soir? Et puis, commence à réfléchir à tout ce que tout le monde s'est dit et tout. Et puis, elle dit, finalement, je crois que finalement, ça peut-être ça bipait pas. 9 mois, ça semble déjà beaucoup. Sa dernière relation, ça s'est arrêté, même à 9 mois à peu près. Et donc, 9 mois, peut-être c'est la limite pour lui. Oh, mais quand même. Entre-temps, le monsieur, qu'est-ce qu'il est en train de réfléchir? Il s'est dit, 9 mois. Je me souviens, il y a 9 mois à peu près, c'était quand j'ai rencontré Delphine, je me faisais reviser la voiture. Et la voiture, je me souviens, le garagiste, qu'est-ce qu'il m'a arnaqué? Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible, ce garagiste, mais c'est la dernière fois que j'utilise celui-là. C'est sûr, la prochaine fois, là, je vais choisir un autre garage, mais c'est tellement dur de choisir, de trouver un bon garagiste. Aujourd'hui, on se fait avoir tous les coups. Donc, elle, regardant son expression qui commence à noircir de plus en plus, elle s'est dit, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai vraiment fait une gaffe. Là, il fallait vraiment que je la ferme là et que je dise rien. Parce que finalement, je sais que je suis exigeante. Mais quand même, pas à ce point. J'ai pas été si difficile ces 9 mois passés. Mais je veux le bonheur que toutes les femmes, elles veulent. C'est tout. Et puis soudain, elle dit, je sais que tu n'es pas un chevalier monté sur ton cheval blanc. Mais quand même. Et lui, il se retourne. Et comme beaucoup d'hommes, de mecs dans cette situation, il sait pas du tout quoi dire. Donc il sort le seul truc qu'il peut. D'accord. Et c'est pas du tout d'où ça vient, et c'est pas du tout où ça emmène, mais il sait qu'il doit la fermer. Parce que s'il dit un mot de plus, ça sera foutu pour toujours. Parce qu'il aime bien sa copine quand même. Donc, il conduit la route, il reprend la route en silence, il la dépose chez elle, il rentre chez lui. Elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend le téléphone, elle appelle toutes ses copines, elle passe jusqu'à 3h du matin à parler de son problème avec son mec. Au téléphone. Salut. Salut, salut. Et puis, et donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre chez lui, et à votre avis, qu'est-ce qu'il fait? Il se met devant la télé, avec une boisson à la main, il zappe entre tennis et foot. Et juste pour un petit instant, il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure dans la voiture? Bon, mieux que je laisse couler, et puis il continue à zapper. D'accord? Et j'aime beaucoup cette histoire. Et maintenant, il va falloir que vous écoutiez sur l'enregistrement, parce que c'est une sympa petite histoire de malentendu assez énorme entre un homme et une femme. Et puis, c'est juste pour dire que nous sommes tous capables de monter tout un scénario basé sur absolument rien, basé sur une fausseté, basé sur une mauvaise interprétation. Et c'est ce que nous faisons tout le temps. Et nous faisons ça tout le temps parce qu'au départ, nous l'avons fait sur notre fameux schéma que nous allons répéter tout à l'heure. Et c'est pour dire qu'au début de ce monde, il y a un faux problème. Ce qui semble un problème, et ça a été décliné maintenant, c'est décliné maintenant par une multitude de différents problèmes dans ce monde. Au début, il y avait un problème, effectivement, mais ce n'est pas un vrai problème. Tout comme ce petit malentendu entre ces deux personnes, c'est un faux problème. Et le faux problème, c'est juste ici, entre étape 1 et 2, plutôt par là, où nous avons décidé de prendre au sérieux un truc que nous n'avions pas besoin de prendre au sérieux. Tout comme cette femme-là, qui a pris très très au sérieux le simple fait que son homme, il a dit d'accord. Et c'est tout, on est parti comme ça sur une fausse idée. Donc ce que nous allons découvrir ce soir, c'est les ramifications de cette fausse idée. Donc toutes les différentes façons que nous pouvons mal interpréter ce qui se passe et ce qui s'est passé dans les relations. Et puis ça sera amusant jusqu'à un certain point. Je vous dis d'avance, parce que ce qui est aussi la particularité du cours, c'est que nous devons découvrir certaines choses que nous n'avons pas forcément envie de découvrir. Bon, ce soir, je vais oser de vous emmener vers ce que le cours appelle les ténèbres ou les nuages. D'accord ? Oui. Et donc, les ténèbres et les nuages qui semblent être tellement importants, qui semblent être tellement lourds, tellement noirs, mais en fait ne sont rien. Parce que les ténèbres, qu'est-ce que c'est ? C'est juste un manque de lumière. L'arbre qui cache le soleil, qui donne une ombre au sol, l'ombre n'est rien en soi. Tout comme un nuage, ce n'est absolument rien en soi. Donc, on est le même. Donc, le point de départ de ce monde est effectivement, nous allons voir, un faux problème qui a donné naissance à une fausse solution. Le faux problème, nous allons décrire, et la fausse solution, c'est nos relations de tous les jours. La façon que nous essayons de combler pour ce faux problème, pour régler, pour compenser pour ce faux problème. Et c'est pour ça que la plupart, voire la totalité de nos relations, ne marchent pas tout à fait comme nous voulons, comme nous voudrions. C'est parce que ce n'est pas comme ça que nous pouvons régler vraiment le problème de fond. Il y a autre chose qui tournoie dans le fond, il y a un autre problème, et si nous ne l'adressons pas, nous ne pouvons pas possiblement trouver la bonne vraie solution. C'est aussi simple que ça. Donc, je vais oser vous emmener sur ce terrain un petit peu glissant, un petit peu ténébreux, où nous allons voir la profondeur de l'esprit, c'est pareil, et ses manifestations, les manifestations de l'ego. C'est ce que nous allons faire ce soir, c'est de regarder la partie des relations qui concerne l'ego. Et ce que nous allons faire la séance prochaine, c'est la partie des relations qui concerne l'esprit juste. La partie la plus aimante de notre esprit. Ce soir, c'est toute la partie fausse, la partie haineuse, la partie qui manipule, la partie qui utilise à mauvais escient les relations. C'est toute cette partie-là que nous avons couvert très brièvement une autre fois. Ce que nous allons faire en plus des détails, certains aspects par là, parce que c'est vraiment le cœur du travail du cours. Et la séance prochaine, nous tournons ici pour voir ce que nous appelons dans le langage du cours les relations saintes. Et les relations saintes, c'est simplement la façon que la partie la plus sage de nous entre dans les relations, utilise les relations, toutes les relations. Toutes les relations peuvent être utilisées soit par l'ego, la partie séparée de nous, qui veut se servir des relations pour lui-même, pour sa satisfaction, ou l'autre partie qui se sert des relations pour un tout autre but, c'est justement de se rappeler de la sainteté de chacun, de la perfection de chacun, que nous faisons partie tous de la même grande et magnifique famille. Donc voilà, mais pour démarrer là maintenant, je voulais justement vous lire d'une leçon que j'ai trouvée particulièrement jolie. C'est une sorte d'exercice, mais nous n'allons pas le faire vraiment littéralement texto, mais juste je vous le donne pour un petit début, une mise en bouche de la soirée. La leçon s'appelle « Mes rancœurs cachent la lumière du monde en moi ». Nul ne peut voir, c'est leçon 69. Nul ne peut voir ce que tes rancœurs dissimulent. Parce que tes rancœurs cachent la lumière du monde en toi. Chacun est dans les ténèbres avec toi à ses côtés. Mais comme le voile de tes rancœurs est levé, tu es délivré avec lui. Partage maintenant ton salut avec celui qui se tenait à tes côtés quand tu étais en enfer. Il est ton frère dans la lumière du monde qui vous sauve tous les deux. Aujourd'hui, faisons une autre réelle tentative pour atteindre la lumière en toi. Avant d'entreprendre cela, pendant notre période d'exercice plus longue, consacrons quelques minutes à réfléchir à ce que nous essayons de faire. Nous tentons littéralement d'entrer en contact avec le salut du monde. Ça va encore, c'est un peu le langage chrétien du cours. Le salut, c'est simplement la reconnaissance de la perfection du monde. Nous essayons de voir passer le voile des ténèbres qui le gardent dissimulé. nous essayons de laisser le voile être levé et de voir les larmes du Fils de Dieu disparaître dans la lumière du soleil. Et le Fils de Dieu étant simplement l'ensemble de ce que nous pensons être. L'humanité, l'existence, de toutes ces différentes façons que nous l'imaginons. Commençons aujourd'hui notre période d'exercice plus longue en nous rendant pleinement compte que c'est ainsi et en étant réellement déterminés à atteindre ce qui nous est plus cher que tout, le salut ou la reconnaissance de la perfection en nous et en les autres est notre seul besoin. Il n'y a pas d'autre but ici et pas d'autre fonction à remplir. Apprendre le salut est notre seul but. Mettons fin aujourd'hui à cette quête ancienne en trouvant la lumière en nous et en la tenant bien haut pour que chacun de ceux qui cherchent avec nous la voie et se réjouissent. Très doucement maintenant, les yeux fermés, essaie de lâcher prise de tout le contenu qui occupe généralement ta conscience. Pense à ton esprit comme un vaste cercle entouré d'une couche de lourds et sombres nuages. Tu ne peux voir que les nuages parce que tu ne peux voir que les nuages parce que tu sembles être à l'extérieur et tout à fait à part du cercle. De là où tu te tiens, tu ne vois aucune raison de croire qu'il y a une lumière brillante cachée par les nuages. Les nuages semblent être la seule réalité. Ils semblent être tout ce qu'il y a à voir. Par conséquent, tu ne tentes pas de les traverser et de les dépasser. Ce qui est la seule façon de te convaincre réellement de leur manque de substance. Nous tenterons de le faire aujourd'hui. Après avoir pensé à l'importance de ce que tu essaies de faire pour toi-même et pour le monde, essaie de te mettre dans un état de calme parfait, en te souvenant seulement à quel point tu veux atteindre la lumière en toi aujourd'hui, maintenant. Détermine-toi à aller au-delà du nuage. Tends la main et touche-les dans ton esprit. Balaye-les de la main, sens-les se poser sur tes joues, sur ton front et sur tes paupières quand tu passes au travers. Continue, les nuages ne peuvent pas t'arrêter. Si tu fais les exercices correctement, tu commenceras à te sentir soulevé et transporté. Ton petit effort et ta petite détermination appellent le pouvoir de l'univers à ton aide et Dieu lui-même t'élèvera des ténèbres dans la lumière. Tu es en accord avec sa volonté. Tu ne peux pas échouer parce que ta volonté est la sienne. Je vais arrêter là parce que c'est assez long. Mais j'aimais bien la façon que ça part vraiment de tout ce qui semble le plus lourd, le plus noir en nous, vraiment comme des nuages, et que nous avons la capacité de les dépasser complètement en les balayant. C'est simplement, quand nous sommes face à ces nuages, des fois ça semble un mur de granit. Surtout quand on est face à quelqu'un qui nous contrarie, qui nous embête, qui nous enquiquine dans l'administration. Oui, est-ce que c'est des frères en Christ, hein? des vrais frères, mais hein? Surtout, même aujourd'hui, nous-mêmes, on a eu juste une petite expérience de ça. On avait vraiment besoin d'entrer en contact avec quelqu'un dans l'administration, quelqu'un qui n'est jamais dans son bureau. Pour X raisons, pas dans son bureau. Mais des fois, tu tombes sur un secrétaire. Mais le secrétaire ne peut pas prendre les messages. Non. Mais prenez juste ce petit message. Non. Non. Nous ne prenons pas les messages. Nous ne prenons pas les messages. D'accord. Qu'est-ce qu'on dit à ce moment-là? Bon, je vais essayer d'insister sur la ligne de cette dame. Donc, il y a des moments, et c'est très intéressant, de faire le rapport dans le schéma, en essayant de comprendre chaque fois pourquoi ça me prend aux tripes. Voilà. Et nous allons nous donner l'opportunité de nous lâcher un petit peu sur le paperboard pour exprimer justement nos petits soucis par rapport à ça. Ce qui est intéressant aussi dans cette leçon, c'est la façon que ça parle des ténèbres. Dans la leçon, on parle de l'importance de traverser les ténèbres, et c'est vraiment le processus du cours. À la différence de beaucoup d'autres spiritualités, où on focalise tout de suite sur la lumière. Dans le cours, le processus nous présente l'idée qu'il n'y a que lumière. Si nous ne le voyons pas, c'est parce que nous ne voulons pas le voir. Donc, nous devons comprendre pourquoi nous ne voulons pas le voir. Nous devons mieux étudier ça. Le plus et le mieux que nous étudions cet aspect-là, pourquoi je ne le vois pas, le mieux je peux dépasser cette résistance, cette bataille entre moi, pour voir ce qui doit être le plus évident autour de moi. Dans nos cours, nous ne passons pas énormément de temps à réfléchir sur la nature de lumière. Oui, on le fait de temps en temps. Dans le livre d'exercice, il y a quand même quelques leçons sur la beauté et la bonté du ciel, sur la vraie récompense de faire ce travail. Mais le vrai travail du cours, le vrai boulot de le faire, c'est d'essayer de dépister ceux qui sont les obstacles, ceux qui sont nos points de résistance. Dans le langage du cours de mon prof, dire oui à l'amour veut dire arrêter de dire non à l'amour. Donc, nous passons du temps à voir toutes les façons que nous disons non à l'amour. Au lieu de juste répéter « je dis oui à l'amour, je dis oui à l'amour », je fais l'inverse. Parce que si je dis oui à l'amour, ça veut dire en quelque sorte, si j'ai besoin de le dire, ça veut dire une autre partie de moi est en train de dire non à l'amour. Donc je ne focalise pas sur la partie de moi qui veut la lumière, parce que là tout le monde le sait, nous voulons la lumière. Nous passons du temps à regarder la partie de nous qui ne veut pas la lumière, qui ne veut pas voir. Et c'est pour ça que ça nous mène sur un terrain des fois un petit peu compliqué, un petit peu ténébreux. C'est le moins qu'on puisse dire. Pour ceux qui ont fait ce cours quelques petites vingtaines d'années, c'est assez remarquable notre envie de rester avec ces ténèbres. À quel point nous nous identifions, nous pensons être tout ça. Et ça nous fait entrer dans un vrai conflit. Ça nous présente le conflit dans lequel nous sommes déjà. En pensant s'être séparés de la source, nous sommes entrés dans un conflit. Nous pensons être en conflit avec quelque chose et avec la source, avec Dieu, avec le Christ, avec la lumière. Et ce conflit est vécu et revécu dans nos relations avec autrui tous les jours. Les relations avec les autres, c'est le microcosme de notre relation avec la source, avec la lumière, avec Dieu, avec le Christ, avec le plus haut, avec la source ou l'être ou la présence le plus spirituel que vous êtes capable de penser, d'imaginer. La relation avec la personne dans l'administration qui s'appelle Jeanne Audelpech. Vous, je le connais bien. Qui s'appelle Jeanne Audelpech. En revenant sur notre première séance ensemble pendant le Big Bang, le bout des Freud. Oui, Jeanne Audelpech, il fait une réapparition en forme de la personne dans l'administration. Encore, comme on a dit déjà plusieurs fois, la personne qui nous a coupé la route, la personne qui est dans la rue, qui nous fait un croche-pied, je ne sais pas, qui prend nos places au café. C'est assez évident que nous dirigeons vers une place au café et puis il se bouscule un petit peu pour s'asseoir et puis il regarde dans notre sens, je ne sais pas. On peut penser à milliers de différentes choses. Figurez-vous que cette personne-là incarne Jésus pour nous, ou le Christ, ou le Bouddha, ou la personne la plus élevée spirituellement que vous pouvez imaginer. C'est lui. C'est quoi notre relation avec lui? Bon. La problématique du départ, très vite, parce que je veux revenir sur autre chose maintenant. Nous avons compris que ici il y avait l'idée d'une séparation. Là où nous sommes tous un, la grande famille, très très heureux, très très heureuse au ciel. Une partie de nous s'est dit mais tiens, c'est trop ennuyeux, il doit avoir autre chose. Et si on demandait d'avoir un peu de reconnaissance, un peu d'individualité, un peu de particularité, autre chose. J'ai m'enduit au sein de cet ensemble. J'ai envie d'être moi-même. J'ai envie d'avoir ma voix, the voice. Donc, à ce moment-là, il s'est posé la question, il avait un choix entre plan A et plan B. Et le plan A, c'était tout simplement de rire à une telle idée, de vouloir faire ou avoir autre chose que la totalité. Qui peut avoir plus que la totalité? On nous offre déjà tout et on veut un petit peu plus. On veut se séparer de l'ensemble. Mais à quel prix? parce que on prend plan B. Et plan B, c'est simplement que nous pensons avoir réussi à faire l'impossible. C'est de nous séparer de l'ensemble, de nous créer une individualité, une identité séparée. Parenthèse, la raison que j'ai fait ça, et je sais pour plusieurs d'entre vous, vous avez entendu ça déjà plusieurs fois, c'est parce que nous allons voir exactement la même dynamique dans nos relations de tous les jours. Nous avons l'opportunité de voir quelque chose chez l'autre. Nous avons un choix, plan A et plan B, et nous choisissons toujours plan B vers la séparation au lieu de plan A vers l'unification avec l'autre personne. C'est la même dynamique, le même choix que nous avons fait ici de nous séparer de l'unité. Nous faisons avec la personne dans l'administration, la personne au garage et ainsi de suite. Je me vois séparé de lui et j'insiste sur la séparation. Et par ce processus-là, je finis par me séparer de plus en plus et me sentir de plus en plus justifié. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Cette séparation est réelle, mais qui a une conséquence. Personne ne peut se séparer de l'amour et se sentir bien forcément, parce que la raison qu'il le fait, c'est pour se séparer de l'amour. Il ne peut pas se séparer de l'amour et être dans un espace d'amour en même temps. Ce n'est pas possible. C'est relativement logique. Donc, nous disons non à l'amour, à l'unité parfaite du ciel, avec la conséquence que nous avons l'impression d'avoir détruit le ciel. Et nous sommes accablés par un sentiment de culpabilité ou simplement de défaut, de quelque chose erroné, fondamentalement erroné et défectueux. Donc, à ce moment-là, dans la métaphysique du cours, il y a la naissance de l'univers physique, qui représente le besoin de cette partie séparée, de dissimuler et de cacher, de se cacher de ceux qui croient être, ceux qui croient maintenant être une sorte de père céleste enragé. Il a fait dans sa petite tête, il pense maintenant que là d'où il vient, le créateur dont il a fait partie est maintenant devenu une sorte d'ennemi enragé, une paix enragée. D'où ces histoires justement de la fuite du jardin d'Éden. C'est ça, Éden ? Éden. D'Éden. Donc nous voyons, voilà une sorte d'histoire archétype qui est au fond dans les gènes, dans l'ADN de l'être humain. De cette idée de culpabilité, de fuite, de crimes. Mais ça équivaut pour nous à un sentiment en chacun de quelque chose erroné, de quelque chose défectueux. Donc, nous créons, nous fabriquons, voilà, cette monde terrestre, cet univers physique qui reste tout de même une illusion. Parce qu'il n'y a que au ciel que nous pouvons faire ce que nous appelons la création. C'est le seul domaine où il y a vraiment création, réalité. Tout ce qui est en dessous de la ligne là est illusion, parce que nous n'avons jamais pu nous séparer vraiment de l'ensemble. Chaque fragment du Big Bang, de cette rêve d'espace-temps, est maintenant imbibé de cette même programmation, de cette même idée, de se séparer, de se individualiser, de se définir et de redéfinir, et imprégné aussi de cette idée de défaut et le besoin de le dissimuler de plus en plus. Donc, nous devenons maintenant ici les petits êtres humains. En fait, l'esprit de l'être humain, c'est un petit peu compliqué, mais bon, pour faire plus simple, nous appelons ça l'esprit décideur. L'esprit décideur, c'est notre vrai esprit qui n'est pas dans le corps, qui a le choix maintenant entre ce que nous appelons l'esprit faux et l'esprit juste. S'il réfléchit avec l'esprit juste, la partie plus sage de nous, il va se dire, tiens, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun vrai problème. Il n'y a jamais eu de vraie séparation. Il n'y a vraiment pas de souci. Nous sommes toujours aimés par notre Père Céleste, par notre Parent Céleste, n'importe la façon que vous voulez l'appeler, qui va nous accueillir au sein de lui, au sein de l'amour. À n'importe quel instant, nous pouvons nous relâcher toutes ces idées de défauts, d'imperfections, de culpabilité, de séparation. Voilà. Mais ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas intéressant de la partie de nous qui est toujours intriguée par cette idée d'être séparée, d'avoir une certaine individualité, une certaine fierté, d'avoir une certaine présence en lui-même, de pouvoir se regarder dans la glace le matin et dire « Je te reconnais, c'est moi-même. » Et tu peux mener ta vie aujourd'hui et on va trouver une façon de te faire oublier tous ces petits soucis de sentiments de défaut. Voilà. Prends ma main, notre ego dit dans l'esprit faux, et je vais te montrer comment nous allons utiliser le monde, tous ces gens, toutes ces possibilités de relations, toutes ces différentes substances, toutes ces différentes situations d'accomplissement, de valorisation, nous allons compenser pour ce manque en toi, ce truc qui te gêne. Nous allons trouver une façon de combler pour ça, t'inquiète pas. Tu vas pouvoir garder ton sens d'individualité, ton nom propre. Tu vas pouvoir continuer à te définir en dehors du ciel et on va trouver une façon pour que tu puisses être vraiment heureux et satisfait au fond de tes petits orteils. Donc, c'est là où nous entrons maintenant dans cette optique de projection. Donc, nous allons passer un peu de temps. Mais c'est juste pour dire que l'être que je suis, défini par l'ego maintenant, au fond de tous ces processus, comme si je commence tout en haut d'une échelle et pom, 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 je tombe juste en bas, jusqu'en bas de l'échelle. Et quand je suis en bas de l'échelle, je pense être moi-même, je me réveille dans ce corps le matin, je pense être moi-même, et je pense être dépourvu de ce problème. Je ne réfléchis pas trop à mon problème. Au contraire, je pense que je suis particulièrement innocent. Je balaye une bonne partie du problème sous le tapis de la conscience. Et pour une bonne partie, je me présente vraiment joyeux, vraiment beau, je souris, gentil, je suis charmeur et tout. Et j'essaie de prouver à tout le monde qu'il n'y a pas un vrai problème chez moi, c'est certainement pas moi qui a cassé le ciel en 1000 morceaux, qui s'est cassé comme un voleur dans la nuit avec le butin et qui veut maintenant essayer de mettre la blâme sur une autre personne. Et ça nous appelons la fausse idée de l'innocence, la fausse innocence ou la face de l'innocence. Il y a une vraie innocence, bien sûr, que nous n'avons pas besoin de prétendre, nous n'avons pas besoin de fabriquer, c'est inné en nous, c'est ce que nous sommes naturellement. Et puis il y a la fausse innocence qui dit toujours, c'était pas moi, c'est pas ma faute. La partie de nous qui a toujours envie, qui se replie toujours derrière ça, même si on ne sait pas de quoi on m'accuse, c'est tout de suite, c'était pas moi. Tout le monde connaît ce petit sentiment de vouloir pouvoir être innocenté. Donc ça entre dans la dynamique ici aussi. Donc le résultat de tout ça, c'est qu'en fait, je deviens un être hypersensible parce que je suis à l'affût de chaque petit souci autour de moi. L'objectif de ce petit bonhomme d'esprit faux ici, c'est de mettre tout sur le compte d'autres personnes et sur le monde. S'il y a une gêne en moi, je me réveille le matin et je dois trouver la raison. La raison ne peut pas être parce que je me suis séparé de mon Père Céleste, de l'unité, de l'amour. Parce que si jamais je le savais ça, je dirais, mais basta l'individualité, je m'en fous, ça ne m'offre pas grand-chose. Je préfère vraiment savoir que je fais partie de l'ensemble de cette énorme famille qui est les enfants de Dieu. Je m'associe, je m'identifie avec chacun, le plus haut, le plus petit. Je dis basta l'individualité et je me laisse revenir, mon esprit, revenir dans cet ensemble et je perds le sentiment d'être quelqu'un de spécial et d'important. Mais une partie de moi n'est pas encore tout à fait enchantée avec cette idée-là et préfère continuer un peu plus loin sur le chemin pour essayer de garder un petit peu d'importance, un petit peu de moi-même. et de balayer les problèmes ailleurs. Donc, tout de suite, quand on entre dans cette dynamique-là, on est obligé, je suis obligé quand je me lève le matin, de trouver la raison pour que je ne me sente pas tout à fait bien. Je vous ai donné l'exemple du café, je vous ai donné plusieurs autres exemples, mais c'est un automatisme chez chacun, dès qu'il se lève le matin, pour essayer d'expliquer pourquoi il ne se sent pas tout à fait très bien. Ah ben, j'ai pas vraiment bien mangé hier soir, qu'est-ce que ça m'a travaillé? Je suis désolé, c'est classique. C'est tellement classique. On trouve, je ne me sens pas tout à fait bien l'instant que je me réveille le matin. Il doit avoir une raison, soit à cause de quelque chose hier, avant-hier, soit à cause de quelque chose dans la journée ou, le mois, ou la semaine prochaine. J'ai un examen, j'ai ceci, j'ai cela. Il y a une multitude de différentes possibilités dans ce monde pour expliquer pourquoi je ne me sens pas bien. Et ça, ça s'appelle la projection. Il n'y a rien qui est là-bas. Il n'y a rien chez les autres, il n'y a rien dans ce monde. Il n'y a rien qui nous fait réagir, qui a cette réaction chez nous. Tout est à l'intérieur de nous et dans notre esprit, dans notre décideur, dans notre choix. Absolument tout. Mais tant que je reste là, avec l'envie de continuer ce petit jeu, j'ai tiré le maximum que je peux. Je vais aller jusqu'au bout, de tirer tout ce que je peux de cette idée de moi-même, de l'individualité. Je serai à l'affût de chaque petit truc qui pourrait me gêner. Je deviens presque hypersensible. Selon chacun, on est sensible, d'accord? On voit qu'on est les gens qui sont vraiment hypersensibles. Nous avons tous un certain niveau d'hypersensibilité. Parce que si nous étions vraiment tout le temps dans notre esprit juste, il y a zéro sensibilité. Dans le sens que rien ne nous fait réagir dans ce monde. Parce qu'on reconnaît qu'il n'y a rien dans ce monde qui peut nous faire réagir. Il n'y a rien qui a le pouvoir en dehors de nous. Tout le pouvoir est en nous. Absolument tout. Dans l'esprit décideur de chacun. De se joindre avec sa source pleinement. Et à ce moment-là, on sait qu'on n'est même pas dans le corps vraiment, comme les très grandes sages, les plus grandes sages. C'est le niveau qu'ils atteignent. Ils savent qu'ils ne sont pas le corps. Pour eux, c'est une marionnette, c'est un bout de bois, c'est une poupée. Ils voient ça. Pourtant, ils ont toujours une relation dans le corps et avec le corps. Mais maintenant, c'est uniquement un moyen de communication. Une façon d'entrer en contact avec les autres pour communiquer quelque chose. Qui se trompe. Qui ne sont pas ceux qui pensent. Donc, nous devenons hypersensibles à un degré plus ou moins. Nous prenons tous très personnellement, plus ou moins. N'importe ce qui se passe, je le prends personnellement. Tout est focalisé sur moi. La personne qui a souri là-bas, il a fait comme ça. Et c'était la personne derrière moi. C'était même pas moi. Je suis capable de prendre tout personnellement. La dame qui me sert vraiment d'une façon très abrupte. Mais qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qu'il y a à ma gueule? Qu'est-ce qu'il y a à ma gueule? Où est Johnny quand on a besoin de lui? Mais je prends tout personnellement. Les gens qui prennent tout personnellement. Et tu demandes, mais pourquoi ils prennent ça personnellement? Ça n'a rien à voir avec eux. Vous pouvez comprendre d'où ça vient. Nous allons comprendre au fur et à mesure que nous avançons avec cette soirée et la séance prochaine. Nous allons développer vraiment un pouvoir de compatir, c'est ça le mot? Une qualité de compassion avec les autres. Parce que nous allons, le pire de l'humanité, nous allons voir d'où ça vient, le paranoïa. Celui qui est paranoïaque. Nous allons voir d'où ça vient, au point de mettre la vie des autres en danger. Même la pire atrocité de l'être humain. Le Troisième Reich, l'Allemagne de 1939. Nous allons pouvoir comprendre d'où vient le système absurde sur lequel tout le gouvernement et les efforts militaires étaient basés. C'est ancré au fond de l'ADN de l'être humain. pour pouvoir dire le problème c'est toujours les autres. C'est les juifs, c'est les gitans, c'est je ne sais pas qui. On s'en fout. L'ego n'a pas besoin de... Il trouve même pas d'excuses, il balance comme ça. Il peut haïr celui qui veut. L'important pour lui, c'est de savoir que le problème est toujours dans son environnement, est toujours ailleurs et jamais dans son esprit. Parce qu'encore, le jour qu'il découvre que le problème est dans son esprit, et c'était dans une simple petite erreur du départ, d'aiguillage, quand il a pris au sérieux une idée qui n'était pas censée d'être prise au sérieux, il va refaire le chemin dans le sens inverse, et il va se réinfuser, il va se réintégrer avec l'esprit 1. Donc, hypersensibilité, il prend tout personnellement. Il y avait un autre petit truc. Il va se sentir... tout devient un problème. Pourquoi pas? Tant qu'à faire. Allez, on y va. Tout devient un problème. Et on voit les gens... Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Tu sais pas? Non? Il y a toujours quelque chose. Cherche. C'est le truc d'hier? Non! C'est pas le truc d'hier! C'est le truc d'il y a 3 ans! On s'en fout. Tout devient un problème. C'est partie de cette hypersensibilité. On devient victime. C'est adorable celui-là. On adore. Parce que. Il est victime, en fait, de son propre choix, bien sûr, d'avoir choisi la séparation au lieu de choisir le Christ, la réalité de l'Esprit 1. Mais il ne peut pas être responsable. Il sait qu'il souffre, mais il ne peut pas être responsable. Et ça rime à quoi? Ça rime à une victime. Nous sommes tous plus ou moins une victime. Tant que nous pensons, nous pouvons être affectés par quelque chose à l'extérieur de nous, nous allons avoir la sensibilité d'une victime. Donc, ça nous inclut tous. Ce n'est pas juste les gens que nous identifions facilement comme ceux qui se prennent toujours pour le victime. Ça, c'est assez facile, bien sûr. C'est vraiment nous tous. Et nous pouvons voir quand même, nous avons une certaine distance entre nous et ceux qui savent qu'ils ne peuvent pas être affectés par quelque chose ici dans ce monde. Les grands maîtres, les grands sages, ils savent. Pour eux, ils sont au-dessus de tout ça. C'est ça, ils ont compris, ils ne peuvent pas être affectés par les choses ici, parce qu'ils ne sont même pas le vrai... Le centre de leur expérience n'est pas dans leur corps. En réalité, le centre de l'expérience pour chacun n'est pas dans son corps. Mais nous ne le savons pas. Nous sommes comme, exactement bâtis comme les grands sages. Ce n'est pas comme si soudain leur esprit n'est pas dans leur corps. Non, notre esprit, en loi de ressenti, n'est jamais dans nos corps. C'est que ce n'est pas un processus d'identification avec nos corps. Nous identifions, je m'identifie avec ce petit carapace, je projette ma pensée dans cette carapace, que j'ai les sentiments, j'ai tous les ressentis de ce corps, j'ai tous les sens qui me ramènent de l'information de l'extérieur et qui me dit quand je souffre et quand je ne souffre pas. Mais parce que je veux ça. Je veux avoir cette expérience de vulnérabilité et sensibilité à travers le corps. Ça me donne... Je suis propriétaire de ça. C'est moi. C'est mon royaume. D'accord, j'ai plus le royaume de Dieu. D'accord, c'est beaucoup plus grand, c'est beaucoup plus majestueux et tout ça, c'est plus petit. C'est tout petit, c'est tout, tout, tout petit. Mais c'est à moi. C'est mon royaume. Et je fais ce que je veux avec. Voilà. Ça, c'est l'esprit de la séparation. Mais il ne peut pas éviter la douleur, la sensibilité, la vulnérabilité, le chagrin, la tristesse, la honte, la blâme, la peur. Tant que je pense que je suis ça et je m'imprègne avec ça, je dois t'avoir peur parce que ça, c'est super vulnérable. C'est hyper vulnérable. Donc tous les matins, je dois penser à mes défenses. Je dois prendre mes médicaments, je dois prendre mes crèmes. Est-ce que j'ai pris la crème hier soir? Est-ce que je l'ai mis? Et, le régime, oh, punaise, alors, qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? J'ai même pas fait les courses comme il faut. Bio, pas bio. mais c'est casse-tête là, l'existence ici, pour faire sûr que je protège ce truc-là. C'est un drame. C'est un drame. Je passe une bonne partie de ma vie à stratégiser la façon que je vais mener l'existence de ce truc. Tout ce temps-là, mon esprit n'est même pas réellement dans ce corps. Nous sommes là où les grands maîtres y sont. C'est simplement que nous voulons continuer à avoir une expérience d'être dans ces êtres, de dire c'est mon royaume, que nous continuons avec cette expérience de sensibilité, de projection, de blâme, de honte. À n'importe quel moment que nous voulons dire assez, nous pouvons faire. Nous pouvons faire. Et je suis sûr que c'est l'une des raisons que vous êtes dans cette salle ce soir. C'est pour au moins écouter autre chose qui ne mène pas juste comme beaucoup de spiritualité et beaucoup de différentes méthodes. Ça fait juste tourner à l'intérieur de ce monde. Ça ne présente pas l'idée qu'il y a une façon d'échapper de ce monde. Tout en être ici. Ce n'est pas une question d'abandonner le corps à aucun instant. Le corps n'est pas l'obstacle, le corps n'est pas le problème. Nous échappons quand nous voulons. Le corps est juste un petit détail. C'est juste un petit détail. C'est un magnifique véhicule pour communiquer avec les autres, pour faire plein de bons trucs. Mené ici par l'esprit juste, il devient vraiment un magnifique outil de communication, de liberté et expérience très, très simple et paisible. Jusqu'à sa fin naturelle. Et à ce moment-là, nous allons savoir que nous ne mourons pas vraiment. Parce qu'à ce moment-là, nous savons que le corps n'était pas le début de notre vie. Nous avons vécu bien avant la vie que nous sommes, en réalité, est beaucoup, beaucoup plus âgée, beaucoup plus vieille que l'âge de ce corps, et va certainement continuer encore. Sans parler du fait que nous baignons dans l'éternité, en réalité, il n'y a même pas de temps et tout ça. Donc, où est-ce que ça nous laisse ? Les buts de l'ego, après tout ça, c'est garder son sens de soi-même à tout prix. Placer la cause de la gêne ailleurs, sur les autres, garder son innocence et remplir ses besoins, parce qu'il sent ce manque. Ça devient la programmation pour toutes ces relations. C'est pour ça qu'on a besoin de parler de ça. Parce que maintenant, quand nous parlons de notre façon d'avoir une relation avec les autres membres de ce qui semble être l'espèce humaine, nous venons à ces relations, à ces rencontres, avec toute cette programmation derrière. Il y a juste un petit truc dont je dois parler, juste pour remplir ce tableau. Ça s'appelle la récompense secondaire ou le bénéfice secondaire. Parce qu'on peut se dire, mais à quoi bon tout ça? À quoi bon tout ça? Je souffre. Je suis malade, j'ai des boutons, je me suis foulé la cheville, j'ai faim, je dois aller chez le coiffeur. Et figurez-vous, ça coûte. Je touche tous les boutons, c'est ça, j'ai une liste ce soir. Oui, aller chez le coiffeur, teinte, pas teinte, ne continuons pas. C'est simplement que nous souffrons, et s'il n'y avait pas un bénéfice, une récompense, en anglais un payback, s'il n'y avait pas presque une sous-table, d'accord, ce que je perds d'un côté, ce que je suis malheureux, j'ai gagné de l'autre. Et ce que j'ai gagné un sentiment d'être moi-même, d'avoir ma vie à moi-même. Si je souffre sa vie, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui souffre. Parce que tout le monde sait qu'au ciel, personne ne souffre. Ça veut dire que je suis séparé du ciel. J'ai gagné. J'ai gagné. Parce que je souffre. Et je vais gagner encore plus le jour que je meurs. Parce que quelqu'un serait mouru. Quelqu'un serait mort. Quelqu'un aurait décédé le jour que je meurs. Et je serais fier de savoir que j'ai vécu, que j'ai pu me séparer de l'ensemble, j'ai pu avoir une vie Les grands sages, ils savent qu'ils ne meurent pas. Comme Ramana Maharshi, il a dit quand il était sur son lit mourant d'un cancer, qu'il n'a pas voulu faire opérer, ses disciples sont venus en le suppliant, « Ne nous quitte pas, maître !» Il a dit, « Mais où voulez-vous que j'aille ?» Parce que les disciples étaient là où il était. Ils étaient déjà ensemble. C'est que les disciples ne savaient pas qu'ils n'étaient pas là où ils pensaient être, tellement ils étaient identifiés avec leur corps encore. Donc notre chemin, au fur et à mesure que nous pratiquons tous ces différents chemins spirituels, comment c'est le processus à nous identifier avec nos corps. Simplement, pas parce que c'est spirituel, c'est simplement parce que le corps n'est pas une source de bonheur. C'est tout. C'est pas vraiment une source de bonheur. Le seul bonheur est dans l'esprit. Et dans la magnificence de l'esprit, là où ça réside, et ce n'est pas fixé dans le corps. Nous l'accédons à travers les expériences du corps, et ainsi le monde devient non pas une prison, mais une sorte de salle d'apprentissage, une salle de cours. Au fur et à mesure, nous décidons que l'expérience humaine n'est pas vraiment joyeuse. Il y a quelques petits moments peut-être, mais les vrais moments de sublime exaltation et de bonheur sont les instants quand nous sentons unis, quand nous perdons le sens d'individualité, pas quand c'est affirmé et revalidé et réaffirmé et validé par les accomplissements, par ceci, par là, par plein de bisous, plein de je ne sais pas quoi. Oui, ça va. Mais on sait que c'est extrêmement éphémère. Ça va vraiment pas loin. Le lendemain, on a encore besoin de plein de bisous et de câlins et de récompenses et de promotions. Et c'est vraiment sans cesse, ça continue. Le vrai bonheur se situe ailleurs. Je n'ai pas besoin de vous le dire, parce que si vous êtes ici, c'est parce que quelque part vous le savez déjà. Donc, l'idée de récompense secondaire, bénéfice secondaire de la souffrance, c'est très important. Ça va nous aider beaucoup à comprendre pourquoi les autres font ce qu'ils font. Quand nous avançons vers les relations, ce que nous allons faire maintenant, ça va tout le monde? Vous avez besoin d'un petit verre ou quelque chose de whisky ou d'autre pour... Ça va? Fait pas trop chaud, pas trop froid, besoin d'un verre d'eau. Servez-vous, n'hésitez pas, parce que je sais que quand même, c'est un peu costaud, hein. C'est pas. Je sais que ça peut secouer un petit peu. Le bateau prend la mer, et puis, ce que je voulais juste faire pour vous donner l'opportunité de vous exprimer un petit peu et pour nous mettre dans la basque. Là, je vais nous parler plus des relations particulières. Nous sommes dans cette partie ici de la projection, là où il dit le petit bonhomme ici, le problème est toi. Il utilise les relations ici pour se satisfaire. Nous allons parler de deux genres de relations particulières, les relations de haine particulière et les relations d'amour particulière. Je vais prendre, je ne sais pas quelle heure il est. 9h30, d'accord, ok. Donc, quelques sentiments, ce que j'ai voulu susciter chez vous, c'est quelques sentiments de gêne. Nous allons parler sentiments, situations. Situation de gêne. Quels sont les différents sentiments que nous pouvons voir chez les autres, ressentir chez nous, les petits sentiments, un petit brainstorming comme ça, qui nous rappelle, qui nous dit « Ah, je ne suis pas heureux. Ah, je suis pas heureux. » Quels sont les sentiments que nous associons avec la gêne, avec des relations vraiment qui ne sont pas joyeuses? L'impatience. Autre chose? Non-tolérance. Je vais faire vraiment un effort extrême pour écrire bien.
Irrespectueux.
Pardon?
Irrespectueux.
Irrespectueux, oui. insensible. Aussi, et ça c'est colère, voilà. Qu'est-ce que ça suscite chez vous quand vous êtes face à des gens comme ça? Peur. Très bien. Fuite. Ah, tristesse, excellent.
Énervement.
Énervement, comme ça? Injustice. Oh, parfait. Injustice. Je m'étais... Trahison. Oh, magnifique. Oh, j'adore. Oh, c'est juteux. Il y en a d'autres là? Hein? Blessure. Oh, j'adore. Oh. Ah, un petit peu de vengeance. Ça fait pas de mal. C'est bien. Trahison, vengeance. Hey. Banco. Ah, jalousie. Ah, tiens. Vous voyez?
C'est par la violence.
Vous pouvez quand vous voulez. J'ai vu aussi agressivité, perplexité. Perplexité, bon. Ça existe inconsidération? Oh, c'est irrespectueux, c'est la même chose.
Indifférence,
c'est bien. C'est. Pardon?
Méfiance.
Égoïsme, ça existe?
Oui.
Bah, c'est déjà pas mal, qu'est-ce que vous en dites? Orgueil! Orgueil! Comment oublier orgueil? Oh là là! Oh là là, on ne peut pas oublier. Orgueil, non, ça n'ira pas. Ce que nous allons voir au fur et à mesure, c'est qu'absolument toutes ces caractéristiques que nous attribuons aux relations avec les autres, nous retrouvons au fond de cette dynamique avec notre source, avec l'origine. Je vous dis ça parce qu'au fur et à mesure, ce que nous voulons voir, que c'est chaque fois que nous avons ce genre de réaction, ou nous voyons ce genre de réaction, de sentiment chez un autre, c'est une projection. Ça ne vient pas de ce qui est en train de se produire entre les gens ou dans ce monde. Je vous dis ça comme ça, je sais, c'est quasiment inimaginable de le réfléchir comme ça. Parce que ce monde semble être la source de tellement de douleurs et d'injustices et de difficultés. Mais la seule façon que nous avons de ressentir, pour pouvoir ressentir l'une de ces choses-là, c'est d'abord de nous être séparés de notre source. La grande, grande sage, le grand esprit qui entre dans la même situation d'intolérance, d'injustice, de souffrance, Il ne va pas avoir la même expérience que nous. Il ne va pas ressentir la même chose. Il ne va pas voir les choses de la même façon. Il y a quelque chose en nous qui projette ses feelings, ses sentiments sur la situation. Et la raison, toujours, c'est ce bénéfice secondaire. C'est pour continuer à se sentir lui-même et archivalorisé. Archi-justifier ce que nous avons dit ici, nous entrons dans une sorte de boucle de perception. Nous projetons cette dynamique de séparation sur l'extérieur et nous arrivons ici en bas avec un résultat. je souffre, je ressens la souffrance de ce monde, mais ce que je ressens et ce que je perçois est justifié. J'ai une bonne raison pour dire ce que je pense et pour dire ce que je ressens. Le grand, grand sage ne pense pas pareil. Il va dire, je ne sais pas de quoi tu parles. Et tu vas dire, je sais de quoi je parle. Il va dire, je ne sais pas de quoi tu parles. Il va dire, il y a une autre perspective, il y a une autre façon de voir les choses. Maintenant, notre objectif, c'est de nous voir précis, c'est de ne pas vraiment arrêter de faire ça, de tournoyer avec tout ça. On ne peut pas juste arrêter comme ça. Mais ce que nous pouvons faire, c'est commencer à nous observer à le faire. Nous nous observons à le faire doucement, tendrement, patiemment, avec compréhension, tranquillement, avec toute la douceur qui nous est offerte par les anges, Jésus, le Christ, le Saint-Esprit, par qui vous voulez, la plus haute autorité spirituelle dont vous pouvez imaginer, dont vous pouvez penser, sont là pour nous aider à réfléchir sur l'ensemble ici, à nous aider à nous observer, être dans cet esprit fou. La façon que nous entrons, que nous utilisons ces relations pour avoir cette expérience, cette bénéfice secondaire d'être valorisé en tant que nous-mêmes. Les différentes situations, ça va nous aider peut-être plus tard ou la séance prochaine pour les mises en situation. Vous avez quelques petites situations juteuses? Administration. Oh Bernard. Hein? Les situations ou les personnes qui vous mettent hors de vous. Politique, les hommes politiques ou la politique. Un simple petit radar, il n'est même pas très grand. Mais ça a de l'effet, le radar. C'est radical. D'autres situations qui vous mettent quand même, qui vous mettent hors de vous. Hein? Comment?
Les camping-cars.
Les camping-cars sur les... Ah, je peux abréger pour tout le monde. Circulation en été à Sarlat. Oui. Ouais. Les touristes, non? D'autres situations, non, mais vraiment, que peut-être dans le passé, c'est peut-être pas aujourd'hui, mais une situation, soit chronique, soit ponctuelle, qui vous mette hors de vous.
Le mépris.
Est-ce que ça se manifeste dans une situation particulière? C'est pas grave, mais c'est juste... D'accord.
Croiser
un chasseur le dimanche. Oui, les chasseurs pensent que le dimanche, c'est à eux. Bah, tu ne veux pas mettre juste chasseur. Hein?
Chasseur.
Chasseur, oui, allez. Les collègues de travail, non? Vous n'êtes jamais enquiquiné par les collègues de travail.
L'harcèlement psychologique des professeurs.
Le travail.
Comment?
L'harcèlement psychologique des professeurs sur les élèves. Ah oui. Mais je ne sais pas écrire harcèlement. Harcèlement des profs. Je vais mettre aussi des personnes en autorité. Parce que c'est vraiment une situation très particulière à l'école, qui n'est pas facile à vivre, c'est que les profs ont une certaine autorité que nous ne vivons pas dans la vie ordinaire maintenant. Une fois qu'on quitte l'école, les relations, les rapports entre les gens deviennent beaucoup plus en égalité. Mais à l'école, c'est pas toujours facile à vivre, n'est-ce pas? Repas de famille. Pâques. Pâques. Noël. Maman. Tante Edith. Oncle Jacques. Grand-père. Tout le monde réuni. Oh, c'est joyeux la famille. Qui redoute ces réunions de famille? Des gens que nous sommes censés aimer. On est mieux avec des amis. On est mieux avec le téléphone. Oublie les amis. Bon, très bien. Nous allons voir. Ça, c'est une petite mise en situation. Je dois aller un petit peu plus vite, apparemment, parce que bon, le temps file très vite, c'est ça? Moins 20? Bon, on va allonger le temps un petit peu. Vite fait. En fait, on a fait déjà pas mal. Le vocabulaire du cours consiste à deux expressions, trois expressions pour parler des relations. Je vous ai déjà présenté relation de haine particulière, relation d'amour particulière et relation sainte. Les deux premières sont ici, du côté de l'esprit faux, le deuxième ici, le troisième, l'esprit juste ici, la relation sainte. Notre objectif, en final, c'est d'atteindre l'esprit juste et d'entreprendre à transformer nos relations particulières en relations saintes. Donc, très brièvement, ça veut dire qu'une relation qui anciennement avait comme but simplement de nous décharger de notre mal, de notre mal-être, de blâmer l'autre pour le mal-être chez moi, et de remplir mes besoins, je change cette relation-là pour que maintenant, il ne devienne plus mon bourreau, il n'est plus la personne responsable pour le mal chez moi, il n'est plus juste la personne qui est là pour satisfaire mes besoins, il est là pour partager quelque chose avec moi. Nous avons un intérêt partagé. Dans l'esprit faux, nous avons des intérêts séparés. Lui, il cherche quelque chose et moi, je cherche autre chose. Lui, il veut quelque chose de moi et moi, je veux quelque chose de lui. Dans l'esprit juste, nous cherchons à la fin la même chose. À la surface, oui, peut-être, lui, il veut mon argent et moi, je veux me faire réparer un pneu. D'accord? Ça, c'est à la surface. Mais au fond de nous, dans le fond de notre communication, au-delà de notre négociation sur la réparation du pneu, il y a une autre relation qui commence à jouer dans notre esprit. C'est que je suis là avec les garagistes pour communiquer autre chose. Je reconnais que nous sommes sur le même chemin. Nous cherchons la même chose au fond. Lui, il pense qu'il va le trouver en prenant le maximum d'argent chez moi. Il ne va pas trouver le bonheur qu'il cherche comme ça. Il va trouver le bonheur qu'il cherche s'il reconnaît quelque part que tous les péchés qu'il pense avoir fait, que tout le mal, que tous les défauts, le sentiment de quelque chose défectueux au fond de lui, que tout ça, ce n'est pas vrai. S'il regarde dans les yeux de quelqu'un qui peut lui communiquer ça, parce qu'il l'a reconnu pour lui-même. Ça, c'est l'esprit juste. Donc, la relation de la haine particulière, c'est tout simplement quand j'essaie d'éloigner le mal que je sens en moi en plaçant le blâme, la responsabilité chez un autre. Et je fais ceci avec les jugements, les critiques, la condamnation, les reproches et les rancœurs. Parce que nous avons vu quelques exemples ici. Chaque fois que j'ai une réaction négative par rapport à une autre personne, je suis en train de dire « Je suis séparé de ma source, je suis ainsi vulnérable, je peux être blessé et je peux être affecté par une autre personne. » Et cette personne-là m'a affecté. Maintenant, je suis justifié à lui faire porter mon jugement. Et je peux expliquer mon jugement. Je peux le justifier, je peux expliquer en long et en large. Je suis malheureux, mais je suis justifié. Je peux expliquer mon malheur maintenant. Je ne cherche pas à expliquer mon malheur en termes de mon choix fondamental de me séparer de la source d'amour. Non. J'ai trouvé autre chose maintenant, parce que l'ego m'a chuchoté dans l'oreille que je peux garder mon individualité si je veux, et je peux placer la responsabilité sur le garagiste, sur Jeannot Delpech dans l'administration, et ainsi de suite. Ça, c'est la relation de la haine particulière. C'est la façon la plus directe que l'ego utilise les autres. Nous avons une devise dans le cours, est-ce que tu veux être heureux ou est-ce que tu veux avoir raison? On le voit, cette devise, de la façon la plus pertinente dans les relations où on essaie vraiment de lancer, de déverser tous nos jugements sur quelqu'un. On peut être aussi justifié qu'on veut dans notre malheur, mais on ne sera jamais heureux. Donc maintenant la question c'est, est-ce que je veux être heureux? Le jour que je veux être vraiment heureux, je vais me tourner vers la source d'amour et je vais dire, aide-moi. Aide-moi à me sentir mieux maintenant. Je me tourne vers toi, je n'ai plus envie de taper sur l'autre personne pour expliquer pourquoi je ne me sens pas bien. Je veux me sentir bien, même s'il continue à taper, parce que des fois, on ne peut pas contrôler la situation. Avec l'administration, avec les gendarmes, à l'école, des fois au travail, on ne peut pas changer les situations. Mais on peut changer notre guide intérieur. Au lieu de continuer à blâmer avec l'ego qui nous dit « Tu peux te sentir mieux si tu tapes encore plus fort sur la tête de celui-là », je me tourne vers les guides beaucoup plus doux qui disent « Je peux te faire, je peux t'aider à te sentir mieux si tu arrêtes de taper sur la tête de cette personne et si tu essaies de le comprendre. Si tu essaies de comprendre d'où vient le malaise chez lui, si tu identifies le malaise chez lui, parce que seule une douleur chez l'autre, un sentiment de séparation profonde avec sa source, peut engendrer cette réaction chez lui, peut le faire ce genre de choses et dire ce genre de choses et harceler les gens de la façon qu'il fait. Seul quelqu'un souffrant fait ça. Nous identifions, nous regardons la souffrance chez l'autre. Nous comprenons que tout le monde souffre dans ce monde. La relation d'amour particulière est beaucoup plus nuancée, beaucoup plus subtile. Ça vaut vraiment une journée. C'est une déclinaison, c'est simplement une autre forme de la relation de la haine, de haine particulière. Pourquoi? Quand l'amour n'est pas totalement inconditionnel, quand l'amour dépend d'un certain choix de comportement une certaine série de comportements ou de choix, nous pouvons dire que c'est l'amour particulier. Parce que ça dépend de la particularité, de la circonstance, de l'activité, du comportement de l'autre. Ce n'est pas un amour universel. Le vrai amour. Le vrai amour aime. N'importe la condition, n'importe la circonstance. Je fais un petit peu plus vite là. Je vais essayer de le rattraper une autre fois parce que ça vaut la peine. Mais ce genre de relation commence avec l'idée que dès que je me sens séparé de ma source, je vais sentir que quelque chose manque en moi. Je ne peux plus me retourner vers ma source, parce que par définition, j'ai fait un adversaire de ma source, c'est ce que j'avais envie de faire, pour me définir en tant que moi. Donc je dois chercher à me combler, à me satisfaire, à combler ce manque par un autre moyen. Il n'y a pas un meilleur moyen que trouver l'autre personne qui va me combler. Donc, je trouve cette personne, nous entrons dans une sorte d'échange ou de commerce, d'échange de satisfaction des besoins. Chacun remplit les besoins de l'autre. Donc, ça marche bien sûr jusqu'à un certain moment, jusqu'au jour que l'équilibre ne marche plus. Et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, la relation devient beaucoup plus joyeuse. Beaucoup moins joyeuse, oui. Oui, d'une certaine façon, on peut dire plus joyeuse, oui. Moins joyeuse dans le sens que si le jour que ma chérie décide de ne pas me sourire comme elle a toujours fait, de me faire les câlins qu'elle m'a toujours fait jusqu'à là, je vais dire, elle m'aime moins. Tu m'aimes, tu n'es pas pareil, tu es plus égoïste, tu ne penses pas à moi, tu penses à toi. Tu m'aimes moins, peut-être, je ne sais pas, tu penses à d'autres personnes, ou tu es trop dans ta tête et je ne sais pas où tu es, mais tu penses moins à moi, moins attentif, tu fais moins de choses à la maison. Et à ce moment-là, la première chose que je fais, c'est que je souffre. D'accord ? Il n'y a rien de tel pour garder l'attention de l'autre personne. Je fais sûr qu'on voit la petite souffrance chez moi. Peut-être d'abord pas trop, mais au fur et à mesure, je vais peut-être avoir du mal à la cacher. Parce qu'il n'y a rien de tel pour faire bouger quelqu'un, c'est de voir un autre souffrir. Et si c'est vraiment nécessaire, je peux me mettre en colère ou je peux verser une larme, parce que ce moment-là, ça entre vraiment magnifiquement dans le jeu de la manipulation par la culpabilité. Personne aime se sentir coupable. Si vous voulez faire quelque chose par quelqu'un, faites en sorte qu'il se sente bien coupable. Vous allez voir, c'est radical. Ouais. Trouve le bouton. Trouve la façon que sinon il sera un être exécrable ou autre. Le jugement du ciel va se déverser sur lui et on va voir s'il bouge pas, s'il va pas faire tout ce que vous voulez. Donc on voit assez vite que la relation d'amour particulier, quand c'est ce genre d'amour, ce genre de relation, est juste la relation de haine particulière déguisée. C'est pour ça que nous parlons des deux ensemble. Bien sûr, il y a d'autres raisons que les gens ils viennent ensemble. C'est pas juste pour cette façon très égoïste et très utilitaire d'utiliser l'autre. Il y a pour la plupart du temps vraiment un ensemble des deux aspects. Un aspect de l'esprit juste, un aspect de l'esprit faux. Dans l'esprit juste, nous venons ensemble pour apprendre à se pardonner, pour apprendre à être plus patient et plus tolérant avec l'autre, à comprendre que nous sommes pareils, nous sommes une unité, nous sommes un ensemble de juste deux êtres qui cherchent leur voie vers la lumière ensemble. Nous avons tous un aspect de ça dans nos relations. Mais parlons de l'aspect, la façon que l'ego utilise les relations particulières. La relation particulière dans cette situation d'amour est très néfaste aux mains de l'ego parce que ça semble tout sauf ce que c'est. Ça semble aimant, ça semble tendre. Je t'aime. D'accord ? Ce genre d'amour, souvent, c'est pas de l'amour. Ça devient plus de la dépendance. La dépendance, c'est nous passons un peu de temps sur ça aussi dans le cours. Pareillement, nous allons en toucher un mot. Je pense que c'est évident. Je ne vais pas pouvoir tout couvrir ce soir, ce que j'ai redouté. Le petit coquin. Je vais l'avoir. T'as vu vengeance et trahison? Ah là là là. Je connais tous les rouages. Donc, mais j'ai encore. Il y a des choses vraiment sympas. Il y avait vraiment. C'est ça pour la prochaine fois, mais bon, je vais juste pour vous laisser sur votre faim. Il y a une clé qui résout une bonne partie de tout ça, de tout cette méli-mélo, qui est assez surprenant, mais je peux même pas commencer à en parler maintenant. c'est assez sympa. Ce que nous avons fait ce soir, nous avons commencé à vraiment dégrossir la façon que l'ego utilise les relations, mais plus que ça, le rapport entre la relation et notre recherche spirituelle. Voilà, nous sommes tous sur un chemin. J'essaie d'utiliser le terme le plus générique pour l'instant pour couvrir toutes les différentes expériences que vous avez pu avoir jusque-là, selon les différentes traditions. Je n'utilise pas encore trop le langage du cours, qui est assez chrétien, qui est très chrétien. Mais nous allons faire ça de plus en plus que vous vous accoutumez peut-être à ce langage et cette particularité de cette approche. C'est assez particulier quand même cette approche. de voir l'ensemble de tout ce qui, de tout ce chemin comme, comme la représentation d'un problème. Une dynamique d'un problème qui se joue et rejoue et rejoue dans multiples différentes façons. Avec une solution, c'est de basculer vers une autre compréhension de la situation en dehors de ce monde. Ce que nous allons pratiquer ensemble encore et encore. Pour finir ce soir, je voulais juste vous lire une petite méditation que je trouvais vraiment délicieuse, très tendre et très exacte par rapport à la nature des relations et justement le rapport entre les relations et notre recherche pour la lumière. Donc, si vous me permettez, on va juste finir comme ça. S'il y a des questions, à la fin, il n'y a pas de souci, posez vos questions. Leçon 265, la douceur de la création est tout ce que je vois. J'ai certes mal compris le monde, parce que j'ai posé sur lui mes péchés et les ai vus là qui me regardaient. Comme il semblait féroce, et comme je me trompais en pensant que ce que je craignais était dans le monde plutôt que seulement dans mon esprit. Aujourd'hui, je vois le monde dans la douceur céleste dont resplendit la création. Il n'y a pas de peur en lui. Qu'aucune apparence de mes péchés n'obscurcisse la lumière du ciel qui luit sur le monde. Ce qui est reflété là est dans l'esprit de Dieu. Les images que je vois reflètent mes pensées. Or, mon esprit ne fait qu'un avec celui de Dieu. Ainsi, je peux percevoir la douceur de la création. Voilà. Merci beaucoup. La prochaine fois, nous nous réunissons le 8 juin et normalement dans l'autre salle, Joséphine Becker. Et je crois que c'est tout. Nous continuons sur les relations en basculant sur une discussion du pardon qui est la dynamique de l'esprit juste. Là où la dynamique de l'esprit faux, c'est la projection, la dynamique qui gère, qui remplit l'esprit juste, c'est le pardon, la façon que nous entrons vraiment dans une autre relation avec les autres. C'est le pardon authentique, qui n'est pas le pardon traditionnel, vraiment nuancé, mais la nuance est très importante, ce qui est le miracle sur lequel le titre est basé, Un cours en miracle. Ça nous apprend le miracle, c'est cette autre façon de voir l'autre. Parce qu'en apprenant de voir l'autre différemment, puisque nous sommes un, puisque l'unité n'est jamais brisée, j'apprends à me voir différemment, et m'accepter au sein de cette magnifique unité que nous sommes toujours. La façon que je vois l'autre, c'est toujours la façon que je me vois. C'est pour ça que je ne me fais jamais un plaisir ou un service quand je tape sur l'autre. C'est moi-même. Bon, s'il y a des questions, si vous voulez rester un petit peu...